Rousseau.
If any member of the family should die whilst in the shelter from contamination, put them outside. Remember to tag them first for identification purposes. Mine is the last voice that you will ever hear.
Bonjour à toutes et à tous, c'est la musique adoucit les mœurs, comme chaque semaine, même heure, même endroit, sur Radio Air Libre, le 87,7 FM à Bruxelles, et puis vous pouvez également nous écouter en DAB+, et via vos applications pour téléphone, tablette et autres ordinateurs. Vous pouvez aussi nous écouter, et entre autres en allant en utilisant le lecteur qui se trouve sur le site de Radio Air Libre. Pour vous présenter l'émission d'aujourd'hui et son sommaire, Nelson Riveros, qui est un musicien qui travaille du côté de New York, avec un album intitulé The Latin Side of West Montgomery, et le morceau s'appelle West Tune, celui que nous avons en fond sonore, pour vous présenter l'émission d'aujourd'hui. Alors, depuis de nombreuses années déjà, la musique adoucit les mœurs, c'est un rendez-vous hebdomadaire consacré à la paix, la recherche de la paix, de la non-violence. Alors, ça veut dire surtout la lutte contre tous les obstacles à la paix et à la non-violence. Et ils sont nombreux, ils prennent plusieurs aspects, et ces aspects sont évoqués dans cette émission, semaine après semaine, pas chacun de ces aspects, mais l'un ou l'autre de ces aspects, bien entendu. Alors, parfois, on parle plutôt d'éducation, comme l'éducation à la paix. Des problèmes de santé liés à la guerre, par exemple, des problèmes juridiques, humanitaires, géopolitiques, etc. Et on n'oublie pas les versions, on va dire, civiles des conflits comme la violence conjugale, ou alors on vous propose également de temps en temps des séquences à caractère plus historique, comme on l'avait fait entre autres à l'occasion du 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale. Alors ça se fait à partir de dossiers de sources très diversifiées, parfois ce sont les mass médias, parfois ce sont des groupes locaux pour la paix ou d'autres activités qui ont également un impact sur la paix. Aujourd'hui on parlera d'armement, les bonnes affaires de la guerre, comme titrait le journal Libération il y a quelques jours. Avec Agir pour la paix, on s'intéressera au sort des réfractaires à la guerre de Russie, de Biélorussie et d'Ukraine. Et puis, si on a un peu de temps, et on va prendre ce temps, on va commencer en voyant les thématiques de paix et de sécurité de l'ONU, le Centre pour le désarmement de l'ONU, qui fonctionne depuis des années, qui malheureusement n'est jamais arrivé à obtenir la paix sur la Terre, mais peut toujours voir les choses de façon optimiste et se dire que ça a quand même contribué et que ça a peut-être évité ou permis de résoudre certains problèmes. Alors, la musique adoucit les mœurs, vous pouvez également nous trouver une série d'informations, entre autres des choses auxquelles je fais référence dans cette émission, sur la page Facebook de l'émission, une page Facebook, un groupe Facebook auquel vous pouvez demander d'être ajouté et ce sera avec beaucoup de plaisir que je mettrai un petit oui à côté de votre nom. Et dans cette émission, il y a également des chansons qui parlent des mêmes choses que les infos, les dossiers. Et par exemple, j'ai repêché un 33 tours de Chantal Paris, qui est une chanteuse canadienne. Et elle est très claire dans ses affirmations. C'est le titre de la chanson « Je suis contre la guerre ». On écoute Chantal Paris.
Comme toutes ces filles qui n'ont plus leur ami, je suis contre la guerre, je ne veux pas te perdre. Si tu pars comme les autres, tu ne reviendras pas. Je ne veux pas que tu ailles dans ce pays.
Chantal Paris avec « Je suis contre la guerre », une chanson qui fleurait bon les années 60, comme vous avez pu vous en rendre compte. En fond sonore, pour aborder le premier thème de l'émission d'aujourd'hui, eh bien, le concerto pour clarinette de Mozart, interprété ici, c'est pas nouveau, hein, ça date de 1949 l'enregistrement, c'est le Wiener Philharmonic sous la direction de Herbert von Karajan, avec Léopold Latsch, si je lis bien, à la clarinette. Si je lis bien parce que les informations sur les disques sont parfois minuscules. Dans les années 1980, par là, début des années 80, je pense, l'ONU a mis sur pied un secteur qui est entièrement consacré au désarmement. Alors, ça a pris différentes formes, la distribution, l'envoi de brochures, entre autres, avec différentes études. Et puis, aujourd'hui, cela se passe plutôt d'une autre façon. On ne fait plus des brochures, on fait des textes sur des sites qui permettent d'expliquer quel est le but recherché par l'ONU à travers son centre pour le désarmement. Alors, on pourrait résumer en disant paix, dignité et égalité sur une planète saine. Et on aurait tout dit et on n'aurait encore rien expliquer, évidemment. Je vais me faire un plaisir de parcourir avec vous une série de questions thématiques qui ont trait à la recherche de la paix et de la sécurité et qui sont abordées donc par le Centre pour le désarmement de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Je vous fais remarquer, je vous rappelle que cette organisation mondiale, bien sûr, est imparfaite, mais elle a quand même le mérite de réunir la quasi-totalité des pays de la planète. Même le Vatican est représenté. Préserver les générations futures du fléau de la guerre, c'est l'un des principaux buts des Nations Unies. Ces mots ont été la motivation principale des fondateurs qui ont créé l'organisation, donc l'ONU, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ayant déjà vécu eux-mêmes en 1945 deux guerres mondiales. Depuis la création de l'ONU, le 24 octobre 1945, c'est la date d'entrée en vigueur de sa charte, l'Organisation des Nations Unies a souvent été appelée à empêcher les différends de dégénérer en guerre ou à aider à rétablir la paix après le déclenchement d'un conflit armé. Elle a également été invitée à promouvoir une paix durable dans les sociétés sortant de la guerre. Alors il y a pour ce faire plusieurs organes ou plusieurs domaines de compétences, le travail réparti entre le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, le secrétaire général. Et on va voir de quelle façon ces trois parties sont impliquées dans le but recherché donc par le Centre pour le désarmement de l'ONU, par l'ONU en général. Alors, je le répète, c'est un document officiel dont je vous fais part ici. Les choses ne sont pas parfaites, elles ont le mérite d'exister et elles sont améliorables. Donc on va le voir de cette façon-là, on va le voir de façon optimiste. Au fil des décennies, écrit l'ONU, l'ONU a aidé à mettre fin à de nombreux conflits, souvent grâce au Conseil de sécurité. L'organe compétent au premier chef en vertu de la Charte des Nations Unies, du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Lorsqu'il est saisi d'une plainte faisant état d'une menace contre la paix, le Conseil de sécurité commence, en règle générale, par inviter les parties à régler leurs différends par des moyens pacifiques. Il peut énoncer les principes auxquels devra se conformer un éventuel règlement, ordonner des mesures d'enquête et de médiation dans certains cas, envoyer une mission, nommer des envoyés spéciaux ou demander au secrétaire général d'user de ses bons offices pour parvenir à un règlement pacifique du différend. Lorsqu'un différend débouche sur des hostilités, le Conseil de sécurité de l'ONU a pour priorité de mettre fin le plus rapidement possible à celle-ci. Dans ce cas, il peut ordonner un cessez-le-feu, ce qui peut prévenir une aggravation du conflit, ou déployer sur le terrain des observateurs militaires ou une opération de maintien de la paix, le fameux casque bleu. Ceci afin d'aider à réduire les tensions, séparer les forces en présence et rétablir le calme pour faciliter la recherche d'un règlement pacifique. Si cela ne suffit pas, le Conseil de sécurité peut décider de prendre des mesures d'imposition de la paix, parmi lesquelles des sanctions économiques, un embargo sur les armes, des restrictions et pénalités financières et des interdictions de voyager. La rupture des relations diplomatiques, un blocus et des mesures collectives d'ordre militaire. Donc il y a quand même un certain nombre de moyens d'action pour l'ONU dans les différents cas, et évidemment, selon le cas, on va appliquer plutôt l'une ou l'autre de ces mesures. On est bien là dans l'application de mesures générales admises par tout le monde. Le problème, évidemment, c'est quand on a la moitié de la salle, autour, la moitié de la table ou des gens qui sont autour de la table, qui pensent qu'il faut faire d'une façon et que les autres pensent qu'il faut faire autrement. Avec en plus des droits de veto pour certains, et donc on l'a encore vu dans le conflit qui se déroule pour l'instant en Ukraine, que ces droits de veto et la présence de certaines personnes autour de la table font qu'on se trouve devant un blocage de fait, même s'il n'est peut-être pas blocage au sens où l'ONU pourrait le mettre en avant. Alors il y a un rôle aussi de l'Assemblée générale dans le cadre de la prévention des conflits et leur résolution éventuelle. Selon la charte, donc la charte de l'ONU évidemment, l'Assemblée générale peut faire des recommandations sur les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale, y compris le désarmement, et pour permettre le règlement pacifique de toute situation de nature à compromettre les relations amicales entre pays. L'Assemblée générale peut également débattre de toute question relative à la paix et à la sécurité internationale, dont le Conseil de sécurité n'est pas saisi, et faire des recommandations. Alors, l'Assemblée générale fait également une référence à une résolution numéro 377 dite « L'Union pour le maintien de la paix ». Une résolution qui avait été adoptée par l'Assemblée générale en novembre 1950, donc ça ne date pas d'hier. L'Assemblée générale peut donc agir lorsque les circonstances l'exigent. Si le Conseil de sécurité s'abstient de le faire par suite du vote négatif d'un de ses membres permanents. Tel pourrait être le cas s'il existe une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression. L'Assemblée générale pourrait examiner la question en vue de formuler des recommandations aux États membres pour qu'ils adoptent des mesures collectives en vue de maintenir ou de rétablir la paix et la sécurité internationale. Vous remarquerez que ces procédures ont été appliquées dans le cas du conflit de la fameuse opération spéciale de Russes en Ukraine. Mais malheureusement, même si on a suivi la procédure, celle-ci n'a pas abouti à un arrêt des hostilités, même pas un arrêt provisoire. Alors une autre partie qui peut jouer un rôle, et parfois un rôle très important dans ce domaine, c'est le secrétaire général, qui, en vertu de la Charte des Nations Unies, peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale. L'un des rôles essentiels du secrétaire général est d'user de ses bons offices, comme on dit, c'est-à-dire de se prévaloir de son indépendance, de son impartialité et de son intégrité pour faire publiquement et en privé des démarches propres à empêcher l'apparition, l'aggravation ou l'extension des conflits internationaux. Le secrétaire général fournit ses bons offices aux parties en conflit, que ce soit personnellement ou par l'entremise des agents diplomatiques qu'il envoie dans les zones de tension à n'importe quel endroit du monde. On peut donc avoir un envoyé spécial du secrétaire général ou bien avoir le secrétaire général qui se rendre sur place ou inviter les parties à se réunir autour de la table dans un endroit approprié. Voyons maintenant une série d'exemples de la manière dont l'ONU peut intervenir dans des conflits ou même, et c'est encore mieux, dans la prévention des conflits. Le moyen plus efficace, écrit l'ONU, de réduire les souffrances et le coût massif des conflits, c'est bien de le souligner, souffrances souvent civiles dans les guerres d'aujourd'hui, et donc avec premièrement une guerre qui coûte un pont et deuxièmement la reconstruction qui coûte également très cher évidemment avant de pouvoir reprendre des activités économiques productrices de richesses qui peuvent faire fonctionner les pays. Bon. Donc, moyen le plus efficace de réduire souffrance et coûts de ces conflits, c'est de les empêcher les conflits. L'ONU joue un rôle important dans la prévention des conflits en ayant recours à la diplomatie, aux bons offices et à la médiation. L'organisation utilise en particulier des envoyés spéciaux et des missions politiques sur le terrain. Moi, je vous rappelle qu'on avait fait des émissions où on avait parlé effectivement des prix Nobel de la paix, des premiers prix Nobel de la paix qui avaient été attribués entre autres à Bernards, si mes souvenirs sont exacts. Et c'est effectivement pour le travail qui était fait dans la prévention des conflits. Et un des premiers prix Nobel, ça a été également une organisation. La première organisation, c'était effectivement une organisation mettant en avant la médiation entre parties en conflit pour éviter de vrais conflits et des guerres. Et donc, c'est ce qu'on appelle la diplomatie préventive, des mesures diplomatiques prises pour empêcher les différends de dégénérer en conflit et pour limiter la propagation des conflits lorsqu'ils éclatent. L'alerte rapide est un élément essentiel de la prévention et l'ONU surveille attentivement l'évolution de la situation dans le monde pour détecter les menaces à la paix et à la sécurité internationale, permettant ainsi au Conseil de sécurité et au secrétaire général de mener une action préventive. Les envoyés représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies travaillent aussi en partenariat avec des organisations régionales afin de mettre un terme à des conflits en cours et d'empêcher que de nouvelles crises ne se déclarent ou n'empirent. Dans certaines zones de conflit, la simple présence d'un émissaire qualifié peut empêcher l'escalade des tensions. Et vous allez me dire, ça ne marche pas partout. Et j'en suis bien conscient, et je pense entre autres au Congo, où ça fait 20 ans qu'il y a casques bleus de l'ONU qui sont là, et malgré tout, le conflit continue, et aussi a parfois des répercussions sur les États voisins, au-delà donc des frontières de la République démocratique du Congo, avec tous les problèmes que cela peut ajouter au cataclysme naturel qui existe déjà dans ces environs-là. Je pense entre autres à Goma, ou si ce n'est pas une éruption volcanique, c'est une maladie. Si ce n'est pas une maladie, c'est par exemple des inondations, etc., etc. Donc, prévention, diplomatie préventive pour empêcher l'escalade des tensions et essayer d'éviter des conflits armés. Alors, un élément, c'est le désarmement préventif. La diplomatie préventive est complétée par le désarmement préventif qui vise à réduire le nombre d'armes légères dans les régions sujettes aux conflits. Le Salvador, le Libéria, le Sierra Leone ou le Timor-Leste font par exemple partie des pays où les efforts de l'ONU ont permis la démobilisation d'anciens combattants, ainsi que la collecte et la destruction de leurs armes dans le cadre d'un accord de paix général. Détruire les armes d'hier est la meilleure façon d'éviter leur utilisation dans les conflits de demain. Et on pense à des pays, même les États-Unis, où la population est fortement armée, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, et entre autres les tueries de masse, etc., etc., les attaques de jeunes un peu perturbés sur des écoles ou dans d'autres endroits fort fréquentés, des centres commerciaux, etc. Mais rappelons que les armes sont quasiment en vente libre aux États-Unis et que certains pensent qu'il faudrait armer tout le monde pour assurer la sécurité. Je pense personnellement qu'ils se gourrent complètement, mais enfin bon, ça nous le savons ici en Europe puisque nous avons nettement moins d'armes dans la population et nettement moins de gens qui les utilisent forcément. Alors, autre chose dont l'ONU s'occupe et qui rentre dans la prévention, c'est la prévention du génocide et la responsabilité de protéger. La prévention du génocide suppose la répartition des responsabilités et la collaboration entre les États concernés et la communauté internationale. L'obligation de prévenir et de mettre fin au génocide et aux atrocités de masse incombe avant tout aux États, mais la communauté internationale a aussi un rôle à jouer auquel la souveraineté n'est pas opposable. Le principe de souveraineté ne peut pas être invoqué par l'État pour refuser toute ingérence extérieure. Dorénavant, il met à sa charge la responsabilité d'assurer le bien-être de sa population. Alors, ça a été consacré par l'article 1er de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, une convention qui date de 1948. Il s'incarne dans les notions de souveraineté responsable et de responsabilité de protéger. Le conseiller spécial du secrétaire général pour la prévention du génocide est notamment chargé de recueillir toutes les informations concernant des violations graves et massives des droits de l'homme et du droit international humanitaire fondées sur l'origine ethnique et la race et qui, si rien n'est fait pour les prévenir ou les faire cesser, comportent un risque de génocide. Son mandat consiste également à faire office de mécanisme d'alerte rapide pour le secrétaire général et par l'intermédiaire du secrétaire général, comme on l'a vu, pour le Conseil de sécurité, en portant à leur attention toute situation présentant un risque de génocide. Il travaille aussi à formuler des recommandations au Conseil de sécurité par l'intermédiaire du secrétaire général sur les mesures visant à prévenir ou à faire cesser tout génocide. Alors, ce n'est pas l'objet de l'article ici, mais ce serait intéressant de voir dans quelle mesure on a pu éviter des génocides ou alors mettre des populations à l'abri et quel a été le rôle joué par l'ONU dans ce cadre-là. On va à présent aborder le problème du maintien de la paix, un aspect qu'on aborde régulièrement dans cette émission « La musique adoucit les mœurs » en vous donnant des exemples d'interventions de casques bleus, appelons-les comme ça, c'est le plus simple, c'est le plus visuel aussi, des troupes de maintien de la paix qui sont envoyées, par exemple des Suédois qui sont envoyés au Mali, etc. Parfois c'est douloureux dans la mesure où ils sont parfois sérieusement tués. Quand je dis sérieusement tué, je ne rigole pas, et ça comporte des risques qu'il faut assumer et qui souvent, s'ils ne sont pas assumés ou pas correctement, ont un impact direct sur la population dans la mesure où celle-ci souffre à ce moment-là des attaques de groupes armés, comme cela se passe, je pense entre autres, dans un certain nombre de pays d'Afrique. Et je vais citer la République démocratique du Congo, mais il y a bien d'autres pays où ce problème se passe, et entre autres en Afrique subsaharienne, du côté plutôt du Mali, du Burkina Faso, etc., avec des groupes djihadistes qui sont actifs dans les environs, et les populations qui ne sont pas nécessairement d'accord avec la manière dont les opérations de maintien de la paix sont organisées, ou en tout cas ce qu'elles en ressentent. L'activité de maintien de la paix de l'ONU aide les pays déchirés par des conflits à créer les conditions de retour à une paix durable. Une opération de maintien de la paix se compose de personnel militaire, de policiers et de civils. Souvent, il n'y a pas d'État dans ces pays-là, ce qui favorise les conflits. Et donc, c'est pour ça qu'on forme, par exemple, des policiers sur place, mais pour les former, on en envoie des gens d'ici qui sont formés, qui sont formateurs. Les opérations de maintien de la paix de l'ONU ont commencé en 1948, lorsque le Conseil de sécurité a autorisé le déploiement d'observateurs militaires au Moyen-Orient. Le rôle de la mission était de surveiller l'application de l'accord d'armistice entre Israël et les pays arabes, les voisins, opération ultérieurement connue sous le nom d'Organisme des Nations Unies pour la surveillance de la trêve. Depuis lors, l'ONU a déployé plus de 70 opérations de maintien de la paix. Et comme je le disais à un instant, certaines de ces opérations de maintien de la paix sont très longues, jusqu'à une vingtaine d'années, mais ça se base souvent. Il y a eu Haïti aussi, avec toujours des gros problèmes internes à Haïti et des problèmes liés à la misère, entre autres. Avec la fin de la guerre froide, le contexte stratégique des opérations de maintien de la paix a radicalement changé et le nombre d'opérations a rapidement augmenté. La nature des conflits a également changé avec le temps. De plus en plus, les opérations de maintien de la paix, dont le but initial était de faciliter le règlement des conflits entre États, ont été déployées pour faire face à des conflits intra-étatiques et à des guerres civiles. J'en parlais il y a un instant. De plus en plus fréquemment, les casques bleus de l'ONU ont été amenés à entreprendre des tâches complexes extrêmement diverses. Des missions ont notamment été déployées en Angola, au Cambodge, au Salvador, au Mozambique et en Namibie pour mettre en œuvre des accords de paix complexes, stabiliser la sécurité, réorganiser l'armée et la police, appuyer l'élection de nouveaux gouvernements et mettre sur pied des institutions démocratiques. Les succès qui, d'une façon générale, avaient marqué les missions précédentes ont conduit à attendre des opérations de maintien de la paix de l'ONU plus qu'elles ne pouvaient donner, écrit l'ONU. Dans les années 90, l'ONU s'est engagée sur la voie des réformes afin de pouvoir gérer plus efficacement ses missions sur le terrain. Par la suite, le Conseil de sécurité a mis en place d'importantes opérations complexes de maintien de la paix dans plusieurs pays d'Afrique, RCDC, Sierra Leone, Libéria, Burundi, Côte d'Ivoire, Soudan, Sud-Soudan, Darfour, à Abyei au Soudan du Sud, en Érythrée, Éthiopie, au Tchad ou en République centrafricaine. Ça fait un bon paquet. Depuis, les opérations de maintien de la paix de l'ONU ont été plus que jamais sollicitées, de plus en plus appelées à opérer dans des environnements lointains, incertains et dans des contextes politiques extrêmement instables. Elles ont été confrontées à des défis extrêmement divers, liés à la nécessité de mener à bien des missions toujours plus complexes, plus vastes et plus onéreuses, et de concevoir des stratégies de transition variables pour répondre aux exigences d'un avenir incertain. Mais oui, je trouve important aussi qu'on rappelle que ça a un coût qui est financé par l'ONU sur base des donations des différents pays. Un pays qui donnait le plus, c'était les États-Unis. Et puis, il y a eu à plusieurs reprises volonté de diminuer, voire de supprimer complètement cette contribution. Et c'est entre autres le cas de la présidence, sous la présidence de M. Trump, qui, disons-le en un mot commençant, n'était pas vraiment quelqu'un qui jouait sur l'extérieur des États-Unis. Le problème, évidemment, aux États-Unis, c'est que les élections se gagnent aux États-Unis et les interventions se font en dehors et sont très coûteuses. Et la population n'a probablement rien à cirer du fait qu'il y ait un conflit à gauche ou à droite dans un pays loin de leur village. On va terminer ce sujet en parlant de la consolidation de la paix qui vise à aider les pays et les régions qui émergent d'un conflit, donc qui sortent d'un conflit, et de réduire le risque d'émergence ou de résurgence de ces conflits en renforçant les capacités nationales de gestion des conflits et en jetant les bases d'une paix et d'un développement durable. Les stratégies de consolidation de la paix doivent être cohérentes et adaptées aux besoins spécifiques des pays concernés. Fondée sur le principe de l'appropriation du processus par le pays en question, et doivent inclure une série d'actions visant à atteindre ces objectifs. La consolidation de la paix comprend un large éventail d'activités, surveillance des cessez-le-feu, la démobilisation et la réintégration des combattants, une aide au retour des réfugiés, des personnes déplacées, l'organisation et la surveillance des élections d'un nouveau gouvernement, le soutien de réformes du secteur de la justice et de la sécurité et l'appui au renfort de la protection des droits de l'homme. La liste n'est pas exhaustive, mais elle est déjà fort longue et ce n'est pas du boulot qui se règle en 5 minutes, comme vous devez vous en douter. La consolidation de la paix implique l'intervention d'un large éventail d'organisations du système des Nations Unies, dont notamment la Banque mondiale, les commissions économiques régionales, les organisations non gouvernementales et les groupes de citoyens locaux. La consolidation de la paix a joué un rôle de premier plan dans les opérations de l'ONU, par exemple en Bosnie-Herzégovine, au Cambodge, au Salvador, au Guatemala, au Kosovo, au Libéria et au Mozambique, et plus récemment en Afghanistan, au Burundi, en Irak, en Sierra Leone et au Timor-Leste. Reconnaissant que les Nations Unies doivent mieux anticiper et relever les défis de la consolidation de la paix, le sommet mondial de 2005 a approuvé la création de la Commission de consolidation de la paix. Dans les résolutions portant création de la cette commission, l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité l'ont notamment chargé de réunir tous les intéressés afin qu'ils mobilisent des ressources, proposer des stratégies intégrées aux fins de consolidation de la paix et du relèvement après les conflits et donner des avis en la matière. L'occasion dans une prochaine émission de revenir sur ces documents venant, je vous le rappelle, de l'ONU et plus particulièrement du Centre pour le désarmement. Ça nous permettra effectivement de mieux connaître, de mieux voir aussi les limites d'action de cette vaste organisation. Moi, je dois vous avouer que j'ai visité il y a des années de ça les locaux, en tout cas la partie visitable des locaux de l'ONU à New York, et c'était impressionnant. J'étais franchement impressionné par le fait que que l'ONU existe, qu'elle fait un travail, qu'elle réunit autour de la même table des pays parfois en guerre ou en confrontation, en conflit. La suite, un prochain numéro donc, et la suite de cette émission, ce se fera en chanson avec une chorale dont je ne connais pas le nom, mais je peux vous dire qu'elle était enregistrée au Palace à la Louvière en octobre 2009, et elle nous chante une chanson de Boris Vian que vous allez sans nul doute reconnaître.
Ça, 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 ça.
De la Louvière, donc avec la Java des bombes atomiques de Boris Vian, une version bien vivante, comme vous avez pu vous en rendre compte. En fond sonore, pour continuer cette émission, la musique adoucit les mœurs d'aujourd'hui est toujours sur Radio Air Libre. Sonny Rollins, avec de sérieuses personnes à côté de lui, John Coltrane et Philly Joe Jones, entre autres, dans When Your Lover Has Gone. Mais on ne va pas parler d'amour sur cette. Mais ça serait gay, hein, de parler d'amour, mais. Pas le but d'aujourd'hui, en tout cas. On va plutôt parler d'armement. Les bonnes affaires de la guerre, titré le journal français Libération, en date du 22 mai, c'est donc tout récent. Et l'auteur de l'article, c'est Franck Boisis. Comme il fonctionne toujours à Libé, c'est une sorte de dossier de plusieurs pages. Certains journaux en Belgique font la même chose, je pense au Soir, entre autres, où il y a l'article de couverture qui fait l'objet d'un développement sur 2, 3, 4 pages parfois plus. Ici donc, Franck Boisis s'est penché sur les exportations d'armes en se disant que finalement, qui profite de conflits et de guerres ? Eh bien, c'est en général pas les populations civiles, mais ce sont d'abord et avant tout les marchands d'armes, pour deux raisons. Premièrement, parce qu'ils les ont vendus avant et qu'ensuite il faut reconstituer les stocks. Donc il y a deux façons. Il y a également des gens dont on ne parle pas dans l'article ici, puisqu'on parle essentiellement de l'armement et du commerce des armes. Le deuxième aspect, c'est la reconstruction, évidemment. Et là, vous pouvez déjà acheter vos actions du BTP, des gros industriels du bâtiment, car après tout conflit, il faut reconstruire. Et donc, que ce soit en Ukraine ou alors dans des endroits où il y a eu des tremblements de terre, je pense en Turquie, le fait qu'il y ait eu un tremblement en Turquie, qu'il faut rebâtir tout dans des régions entières, influence évidemment sur le prix et sur les bénéfices que pourront faire les reconstructeurs. Ouais, voilà, je vais rester là pour cet aspect-là des choses. Revenons à l'armement et aux bonnes affaires de la guerre. Évidemment, c'est un journal français, donc il donne surtout des informations sur la France. La France qui, en 2022, était le deuxième plus gros exportateur d'armes dans le monde. Évidemment, les États-Unis sont imbattables. 14 milliards d'exportations d'armes pour les États-Unis, par rapport à 3 milliards pour la France. Viennent ensuite respectivement la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, la Turquie, Israël et la Pologne. Je m'arrête là parce qu'il y en a encore d'autres qui sont cités dans l'article. Alors, près de 12 milliards d'euros d'armes vendues par la France en 2021. Alors, on donne une infographie qui est toujours difficile à montrer en radio. L'évolution sur la période de 2012 à 2021. Alors, c'est une infographie assez intéressante dans la mesure où elle met des hauteurs comme ça avec des vagues. C'est très intéressant. Alors, on retrouve par exemple dans la période avant 2014 l'Arabie Saoudite comme gros acheteur. Puis, dans la période de 2014 à 2016, respectivement l'Égypte, l'Inde et le Qatar. De 2017 à 2020, le Qatar, le Koweït, les Émirats Arabes Unis et la Belgique. Et oui, un contrat, enfin, ou des achats d'armes pour 6 milliards. Et en 2021, l'Égypte. Alors, pourquoi est-ce que certains pays apparaissent à tel moment et pas à d'autres? Ça vient simplement du fait des commandes. Et donc, si vous faites une grosse commande d'armement, vous allez vous retrouver dans ce classement l'année de la commande. Et par exemple, si vous achetez des avions Rafale français, par exemple, si ça vous venait à l'idée, eh bien, à ce moment-là, cette année-ci, il y aurait dans les statistiques pas mal d'argent parce que ça coûte bonbon, hein, des petits avions comme ça. Alors, comme d'habitude, Libération utilise des titres à l'emporte-pièce, comme ça, le budget canon de la France. 413 milliards pour la défense dans les 7 prochaines années. C'est ce qu'annonce la loi de programmation militaire, donc où il y a les budgets, les estimations de dépenses futures pour pouvoir prévenir en quelque sorte. Et un des gros bénéficiaires de ces achats d'armes par la France elle-même, donc, c'est la société Thales, dont l'exemple est donné dans l'article de ce journal Libération du 22 mai, donc. Les bonnes affaires de la guerre. Et on va aborder un autre sujet qui est celui des enfants soldats, mais en chanson, avec Gérard Manset, un extrait de son album Obok. Ça va pas, ça ne va pas. Il doit y avoir un cheveu sur le disque, s'il veut bien sortir. Je vérifie ça tout de suite. Eh bien, même pas, figurez-vous. Alors, on va essayer de le remettre parce que la chanson est intéressante et on va voir immédiatement si c'est Gérard Manset qui bégaye comme ça, tout à coup, ou bien si c'est le disque qui, lui, fait des bêtises. Eh bien, manifestement, c'est le disque. Alors, pas de panique, on va arranger ça tout de suite.
Messieurs les militaires, on peut souvent vous voir passer avec vos airs d'entre-deux-guerres. Vous feriez mieux de rentrer dans vos foyers. Quand vous étiez d'un jeune mec, vous vous êtes fait casser le bec. Vous voudriez qu'en face au temps, tous les garçons de maintenant. Ah mais non, 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 merci, sans façon. Pour un empire, un oui, un non, un pet de travers, un bout de jupon, fallait défendre le blason à pied, à cheval et à coups de canon. Quand vous étiez d'un jeune mec, vous vous êtes fait casser le bec. Vous voudriez qu'en face au temps, tous les garçons de maintenant. Ah mais non, 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 merci, sans façon. Fini le temps du lance-pierre, du coup de bourdin, du coupe-papier. Maintenant quand on fait la guerre, autant vous dire que c'est pas pour rigoler. Quand vous étiez d'un jeune mec, vous vous êtes fait casser le bec. Vous voudriez qu'en face au temps, tous les garçons de maintenant. Ah mais non, 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 merci, sans façon. Il y a des bidules, des machins chouettes, des trucs qui font la place nette, qui font sauter une planète. On n'a pas le temps de demander pardon. Quand vous étiez d'un jeune mec, vous vous êtes fait casser le bec. Vous voudriez qu'en face au temps, tous les garçons de maintenant. Ah mais non, 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 merci, sans façon. Allons enfants de la patrie, les jours de gloire sont les civets, et avec eux la zizanie et les fameux jours de boche enragés. Quand vous étiez de jeunes mecs, vous vous êtes fait casser le bec. Vous voudriez qu'en face au temps, tous les garçons de maintenant. Ah mais non, 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 merci, sans façon.
Mieux à changer de platine, on a dû ressortir nos vieux 33 tours, et ça, ça marche toujours, les 33 tours. Les jeunes mecs, c'était Stéphane Reggiani, le fils de l'autre, le père de l'autre. Pour continuer, d'ailleurs, terminer cette émission, la musique à douce humeur d'aujourd'hui, en fond sonore, Les Patineurs de Emil Waldteufel. Il va nous permettre d'aborder un communiqué de presse de Agir pour la paix, ça vient de sortir, c'est tout frais. Et qui nous parle de 50 000 Européens qui soutiennent les réfractaires à la guerre de Russie, de Biélorussie et d'Ukraine. Il y a effectivement, on le sait, on le dit trop peu, des gens qui s'opposent à la guerre des deux côtés du front. Alors, le 23 mai, manifestation à Bruxelles devant les ambassades de Russie, d'Ukraine et devant le Conseil européen. Des centaines de milliers d'hommes, pour la plupart russes, ont fui pour éviter de participer à la guerre brutale que la Russie mène sur le territoire ukrainien, écrit Agir pour la paix. Ils sont persécutés par les autorités russes et tentent donc de fuir la Russie, mais au lieu de leur accorder la protection qu'ils méritent, l'Europe abandonne à leur sort les objecteurs de conscience, les réfractaires à la guerre et les déserteurs. C'est pas nouveau, ça avait été la même chose sur le conflit en Yougoslavie, où on envoyait d'un côté des casques bleus et d'un autre côté, on renvoyait les objecteurs de conscience et les réfractaires à la guerre, on les renvoyait en leur disant « allez vous battre ». Enfin, c'était ça comme résumé, parce qu'on les envoyait dans leur pays et donc où ils avaient fui la conscription. C'est incompréhensible, écrit Agir pour la paix, si l'Union européenne veut arrêter la guerre, soutenir ceux qui refusent d'y participer est une évidence. C'est d'ailleurs un droit inscrit dans le droit international humanitaire. N'abandonnez pas les Russes et les Biélorusses, mais aussi les Ukrainiens qui ne veulent pas participer à la guerre. Plusieurs organisations européennes ont uni leurs forces pour aider les hommes qui ont fui. Outre l'octroi de conseils juridiques, ils ont lancé une pétition intitulée « Object War ». Plus de 50 000 Européens ont signé cette pétition qui demande l'asile pour les objecteurs de conscience et les déserteurs. C'est ce que les signataires demandent à Charles Michel, président du Conseil européen, à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et à Roberta Metsola, présidente du Parlement européen. On a le triumvirat qui dirige l'Union européenne. Le 16 février, le Parlement européen a voté une résolution qui contient le paragraphe suivant. Le Parlement européen déclare sa solidarité et son soutien aux personnes courageuses de Russie et de Biélorussie qui s'expriment contre la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Demande que les États membres offrent protection et asile aux Russes et aux Biélorusses persécutés pour s'être exprimés ou avoir protesté contre la guerre, ainsi qu'aux déserteurs et aux objecteurs de conscience russes et biélorusses. Il est grand temps que l'Union européenne soutienne ces victimes de la guerre en Ukraine. Soutenez ceux qui refusent de participer à la guerre et donnez-leur la sécurité qu'ils méritent. Voilà donc le message d'Agir pour la paix et de ses mandants. Le mardi 23, nous ferons, le communiqué date d'avant, il annonçait l'action, une campagne devant les ambassades russes, avenue de Frey, ukrainienne, avenue Lancaster, et devant le Conseil européen. Nous commencerons à l'ambassade de Russie, etc., etc. À chaque endroit, des témoignages seront lus et nous afficherons le symbole des refus de la guerre, le fusil brisé. Si vous voulez voir un exemplaire de ce fusil brisé, vous pouvez le trouver sur la page Facebook de l'émission La musique adoucit les mœurs que vous écoutez en ce moment. Alors, les organisations qui ont participé à cette action, Agir pour la paix, je vous l'ai cité, Pax Christi Vlaanderen, Quakers of Belgium et l'association Vrede, qui il y a la coupole des organisations de paix du côté flamand. Donc, ces organisations ont participé à la campagne belge. Il y a également le Bureau européen des objecteurs de conscience qui a été un des initiateurs de la campagne et de la pétition Object War. C'était donc pour le 23 octobre. Le 23 mai. Et on a été averti trop tard, donc on n'a pas pu participer. Mais bon, n'empêche. On arrive tout doucement à la fin de cette émission La musique adoucit les mœurs d'aujourd'hui. Et je vous propose de terminer en chanson avec... Avec qui donc? Comme il ne me reste plus beaucoup de temps, je ne vais pas vous passer une chanson parce qu'on n'aura pas le temps d'écouter en entier. Ce sera pour la semaine prochaine. Ce que je vous propose, c'est de vous rappeler l'adresse, les contacts que vous pouvez faire avec cette émission ou avec Radio Air Libre dans son ensemble, c'est comme vous voulez. Je vous rappelle la page Facebook, j'en ai parlé il y a un instant. Y participer, en se faire membre, ça ne coûte rien qu'un petit clic de souris sur la page. Voilà. D'autre part, il y a moyen de nous contacter par la poste et par l'Internet. L'adresse postale de Radio Air Libre, c'est le 365A Chaussée d'Alzenberg, Alzenberg, avec un M, à 1190 Bruxelles. 1190. L'adresse électronique, c'est Radio Air Libre en un mot et au singulier, @skynet.be. Vous mettez dans le sujet LMAM, ou la musique adoucit les mœurs en entier, c'est comme vous voulez, ça nous sera transmis. Dans quelques instants, la suite de nos programmes sur Radio Air Libre. Je vous rappelle que l'émission est proposée tous les vendredis de 9 à 10 heures et rediffusée le samedi de 14 à 15 heures.